toujours à l'écoute de Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 15h ici à Paris, 13h en temps universel. Dernière partie de RFI Midi, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité d'Haïti et du continent américain. Et on va évoquer notamment en longueur la situation sécuritaire à Port-au-Prince, plusieurs quartiers de la capitale haïtienne qui n'arrivent plus à faire face aux attaques de gangs. Les habitants sont obligés de fuir et dans le même temps la République dominicaine poursuit ses expulsions de migrants haïtiens installés sur son territoire, 28 000 en 3 semaines. D'après les autorités dominicaines. Comme tous les jours, on revient sur la campagne présidentielle américaine avec un décryptage du programme des candidats sur le dossier précis qu'est l'économie. Et puis l'actualité des Outre-mer avec vous, Benoît Ferrand. En Martinique, la situation reste toujours assez confuse entre ceux qui soutiennent l'accord signé la semaine dernière et ceux qui ne veulent pas en entendre parler.
Et oui, le RPRAC d'un côté qui appelle encore et toujours à la mobilisation contre la vie chère et puis l'accord signé qui poursuit tranquillement son petit bonhomme de chemin. Nous entendrons tout à l'heure le président de la collectivité territoriale de la Martinique.
A tout à l'heure Benoît Ferrand, on vous appelle dans 20 minutes. Et d'abord le journal avec Gilles Moreau et à la une, on l'évoquait dans les titres, la situation sécuritaire en Haïti et pas d'accalmie en vue pour le moment.
Non Stéphane, et les gangs armés ont repris leurs attaques coordonnées visant plusieurs quartiers de la capitale Port-au-Prince. Des attaques qui ont aussi visé d'autres communes en province. Devant ce déchaînement de violence, Maria Isabel Salvador, la chef de la mission de l'ONU sur place, regrette des divergences croissantes entre les deux têtes de l'exécutif en Haïti. On l'écoute.
La situation en Haïti s'est aggravée de façon regrettable. Il y a plus de 700 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays, soit une hausse de 22% au cours des trois derniers mois. Malgré des avancées initiales que j'avais déjà notées en juillet, le processus de transition politique fait face à des défis importants qui transforment l'espoir en une profonde inquiétude. Les progrès limités réalisés par les autorités nationales pour mettre en œuvre une gouvernance de transition ont été sérieusement éclipsés par les divergences croissantes entre les deux têtes de l'exécutif. Le Bureau des Nations Unies en Haïti s'efforce de renforcer la collaboration entre les deux têtes de l'exécutif en les exhortant à mettre de côté leurs différences pour se concentrer sur la lutte contre l'insécurité, les réformes de la gouvernance et les préparatifs des élections. L'exécutif doit agir dans l'unité et avec un plus grand sens des responsabilités pour relever les défis les plus urgents que rencontre Haïti.
Maria Isabel Salvador, la chef de la mission de l'ONU en Haïti, propos recueillis par Margot Ratezik. Le secrétaire général de l'ONU est en Russie. Antonio Guterres est arrivé ce matin à Kazan pour assister au sommet des BRICS, groupe dominé par la Russie et la Chine. Un sommet censé promouvoir l'ambition du Kremlin de concurrencer l'hégémonie occidentale. À Kazan, les appels à l'arrêt des combats et à l'ouverture de négociations en Ukraine et au Proche-Orient se sont succédés. D'après le porte-parole du Kremlin, Vladimir Poutine a accueilli favorablement les propositions de médiation de ses partenaires.
Le parti travailliste britannique visé par une plainte qui vient de Donald Trump, Gilles.
Oui, à l'approche de la présidentielle du 5 novembre, le candidat républicain a décidé de porter plainte auprès de la Commission électorale fédérale aux États-Unis. Plainte pour ingérence étrangère manifeste contre le parti travailliste britannique. Le parti au pouvoir au Royaume-Uni tente de contribuer, selon lui, de façon illégale à la campagne démocrate. À Londres, le gouvernement de Keir Starmer rejette ces accusations. Décryptage de cette brouille avec la correspondante de RFI à Londres, Emeline Vin.
Au départ, il y a cette publication, depuis supprimée sur le réseau social LinkedIn, de la part de la chef des opérations du Parti travailliste britannique. Je cite « Nous sommes une centaine d'employés du Labour à partir aux États-Unis. Il reste 10 places pour faire campagne en Caroline du Nord. Nous prenons en charge votre logement. Contactez Labour pour Kamala ». Dans sa plainte, le candidat républicain Donald Trump évoque aussi des instances de contact entre le parti travailliste et la campagne de la démocrate Kamala Harris, sa principale concurrente. Les accusations interviennent alors que le premier ministre britannique Keir Starmer est en déplacement aux îles Samoa. C'est donc le ministre de l'Environnement, Steve Reed, qui a dû minimiser ce mercredi matin dans sa tournée des matinales.
Les citoyens, les individus, sont libres de faire ce qu'ils souhaitent de leur temps et de leur argent. Il n'est pas rare de voir les militants d'un parti dans un pays donné aller faire campagne pour un parti frère dans un autre pays. Cela dit, rien de tout cela n'a été organisé ou financé par le parti travailliste lui-même. Ce sont des initiatives individuelles, comme cela est autorisé.
Le Premier ministre a rencontré Donald Trump en septembre. Les deux hommes auraient alors établi un bon rapport. Londres assure que la relation spéciale qui unit le Royaume-Uni aux États-Unis continuera, peu importe qui succède à Joe Biden. Emeline Vint, Londres, RFI.
Au Proche-Orient, l'Organisation mondiale de la santé annonce qu'elle reporte la campagne de vaccination contre la polio dans le nord de la bande de Gaza. Cette campagne devait débuter aujourd'hui. Elle est reportée en raison, dit l'OMS, des bombardements intensifs menés par l'armée israélienne.
Direction la Bolivie, à présent 10e jour consécutif de blocage des routes par les partisans d'Evo Morales.
La plupart des barrages se trouvent dans l'état de Cochabamba, fief politique de l'ancien président bolivien. Les partisans d'Evo Morales réclame l'annulation de la procédure engagée contre lui dans une affaire de viol. Il demande aussi des solutions face à la pénurie de dollars et au manque de carburant. Reportage à La Paz de Camille Beaujou.
La ville de La Paz est étrangement calme pour un mardi matin. Dans les rues, des passants bidons vides à la main cherchent désespérément une station-service ouverte. C'est le cas de Berta qui s'est levée à l'aube pour marcher jusqu'à l'entrée de la ville en espérant remplir son réservoir d'essence.
Maintenant, avec cette situation, il n'y a aucun moyen de sortir de la ville parce que nous n'avons pas de carburant. Jour après jour, nous souffrons, nous ne savons plus vers qui aller.
Sans essence, Berta est bloquée. Impossible pour elle de rentrer chez elle à la campagne, puis de revenir en ville vendre ses légumes. Et elle n'est pas la seule à attendre. Une cinquantaine de véhicules font la queue. Mauricio patiente lui depuis 2 heures sur sa moto. Il doit aller faire des courses, une tâche qui le préoccupe de plus en plus.
C'est difficile, nous essayons de survivre avec ce que nous gagnons, mais ce n'est pas suffisant. Le prix des aliments a doublé. Le poulet coûtait 30 pesos et maintenant il est à 60 pesos.
Les blocages qui retardent l'arrivée des carburants bloquent également l'arrivée des cargaisons alimentaires jusqu'à La Paz. Et la situation ne devrait pas s'améliorer de sitôt. Au blocage initié par Evo Morales s'ajoutent ce mercredi des manifestations organisées par les syndicats de transport public à La Paz. Camille Bouju, La Paz, RFI.
Dans l'actualité économique, comme prévu, de lourdes pertes pour Boeing. Le géant américain de l'aéronautique affiche au troisième trimestre une perte nette de 6,170 milliards de dollars. À cela, plusieurs raisons. Les conséquences de la grève de plus de 33 000 ouvriers depuis mi-septembre et les lourdes charges enregistrées dans les branches aviation commerciale et défense et espace de Boeing.
Et puis pour refermer ce journal, Gilles Moreau, le métro de Tokyo est désormais coté en bourse.
Oui, ce métro qui exploite 9 lignes dans la capitale japonaise est connu pour sa propreté et sa ponctualité exemplaire. À ses débuts en bourse, son titre a bondi, tenez-vous bien, de 36%. Dans tout le Japon, l'entrée en bourse de Tokyo Metro est très populaire chez les investisseurs. Nous retrouvons sur place Frédéric Charles.
L'appétit pour le titre de Tokyo Metro est démesuré. Il a été sursouscrit plus de 10 fois par les petits porteurs japonais. L'entreprise n'a pas hésité à faire du porte-à-porte pour les attirer, offrir des avantages aux détenteurs de 200 actions et plus, comme l'accès gratuit à son musée et à son terrain de golf. Le dividende est élevé, plus de 3%. C'est une entreprise très connue et très respectée. En dehors de l'épidémie de Covid, c'est une activité de transport extrêmement stable. Tokyo Metro bénéficiera d'un nombre croissant d'usagers et de touristes. La démographie à Tokyo est bien meilleure que dans le reste du pays, estime Travis Lundy, un analyste présent sur Smart Karma, la plateforme en ligne de recherche. Dans une nébuleuse urbaine les plus peuplées du monde, Tokyo Metro transporte chaque jour près de 7 millions de passagers. Ses rames sont climatisées, propres, sûres. Elles sont reliées à d'autres axes ferroviaires et s'arrêtent juste à temps avant un puissant tremblement de terre. Frédéric Charles, Tokyo. RFI.
Bonne journée sur RFI, tout de suite en compagnie de Stéphane Genest.
C'était le journal avec Gilles Moreau, 15h09, ici à Paris, 9h09 à Port-au-Prince.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
La situation sécuritaire en Haïti continue d'inquiéter les Nations Unies. L'ONU, qui se dit horrifiée par les attaques de gangs à Port-au-Prince ainsi que dans des communes de province ces derniers jours. Des assauts multiples qui ont déjà forcé des milliers d'habitants à fuir. Et d'après un bilan partagé par la protection civile, ces 5 derniers jours, les attaques de la coalition Vivensam ont fait plus de 5000 déplacés. Peterson Luxama, notre correspondant à Port-au-Prince, a rencontré des habitants désemparés. Reportage.
Les assauts répétés des bandits armés à Solino depuis la semaine dernière plongent les habitants de ce quartier dans une terreur indescriptible. Certains d'entre eux ont dû prendre leurs jambes à leur cou, à l'image de Délise Fimante, mère de 2 enfants.
Les bandits nous ont chassés de la zone, nous avons dû partir. Nous dormons chez des gens, moi je suis chez mon frère, mais la maison est si petite qu'on dort assis. Nous n'avons nulle part où aller, toutes nos affaires sont à Solino.
Ne sachant à quel saint se vouer, Délise Fimante dit attendre le secours divin.
Nous vivons une situation extrêmement difficile. Nous sommes obligés de nous entasser quelque part pour dormir. Nous ne savons pas quoi faire. Seul Dieu peut nous aider à nous en sortir.
Eddie, 38 ans, est un artiste peintre qui habitait la localité de Anglade, dévastée par la violence des bandits. Face aux assauts des malfrats, le peintre n'a pu sauver que sa peau.
Cela fait longtemps qu'ils nous attaquent à Solino et l'État n'a jamais réagi. Maintenant, la situation devient plus grave. Ils ont incendié presque toutes les maisons dans la ruelle Anglade. Pour l'instant, je n'ai pas d'endroit où rester. Je vais chez un de mes enfants pour voir si je peux y trouver un abri.
Dans cette situation de terreur la plus totale, une voix manque à l'appel, celle de l'État haïtien.
L'État reste toujours silencieux, c'est un État muet. Cela ne nous plaît pas du tout, nous sommes dans notre propre pays et pourtant nous sommes en difficulté.
Profitant de l'inaction ou de l'impuissance des autorités, les gangs armés poursuivent leurs exactions à Port-au-Prince et dans certaines villes de province. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Et cette situation sécuritaire en Haïti est évoquée dans le Miami Herald. On y lit que Leslie Voltaire, l'actuel président du Conseil présidentiel de transition, a écrit une lettre à l'ONU. Il y demande que la mission multinationale de soutien à la sécurité actuelle dirigée par le Kenya soit transformée en une mission officielle de maintien de la paix de l'ONU. Leslie Voltaire qui invoque l'urgence de la situation dans le pays. Son prédécesseur à la tête du CPT, Edgar Leblanc-Fils, a défendu l'idée il y a un mois lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et dans le même temps, la République dominicaine continue de rapatrier de force des migrants haïtiens installés sur son territoire. 28 000 en 3 semaines selon les derniers chiffres des autorités dominicaines. Hier, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le chancelier dominicain a rejeté les appels à l'arrêt de ces déportations. La ministre haïtienne des Affaires étrangères parle de politique discriminatoire. Dominique Dupuis qui dénonce des déportations massives de ressortissants haïtiens. Politique également dénoncée par les responsables d'organisations locales qui œuvrent à la protection des migrants, comme le père Germain Clairvaux, directeur national du service jésuite aux migrants. Interrogé par Michael Ponge, il parle de catastrophe humanitaire.
C'est une situation qui met l'Haïtien qui était là-bas pendant longtemps dans une situation déshumanisante. Et la façon dont on transporte les gens, c'est comme des sardines ou des marchandises. Il n'y a aucun respect pour la vie, pour la dignité de la personne, que ce soit les enfants, des femmes et des hommes qui ont été au travail sale, qui sont sortis pour acheter quelque chose dans leur quartier. On les a pris. Et puis bon, leurs affaires sont restées là-bas, leurs familles sont restées là-bas. Ils n'ont pas de contact avec leurs familles. Donc, vous voyez la douleur, la souffrance des gens. Des enfants qui arrivent parfois même sans leurs parents, et sans leur maman, sans leur papa. Parce qu'ils ont été pris comme ça. Nous avons constaté même des enfants en uniforme. On sait que, par exemple, il y a un protocole d'accord qui dit comment on doit faire les déportations. Et on doit annoncer le gouvernement haïtien d'abord. Et puis, il dit, bon, à quelle heure que les déportations doivent être faites. Ce protocole d'accord a été complètement pas respecté. C'est une situation alarmante.
Le gouvernement dominicain a annoncé donc un chiffre de 10 000 expulsions d'haïtiens par semaine. Est-ce que ce sont des chiffres que vous constatez, vous, sur le terrain concrètement? Est-ce que vous avez une idée précisément depuis le début du mois, combien d'haïtiens ont été ainsi ramenés de force en Haïti depuis la République dominicaine?
Ce que nous avons constaté de notre côté sur le pont frontalier de Wanamet, c'est que les gens, ce qu'on a pu compter, qu'on a pu accompagner, accueillir, disons, c'est 5 252 personnes. donc distribués comme 3828 hommes, 1099 femmes, 172 petits garçons, 153 petites filles.
Est-ce que ces personnes-là qui sont donc ramenées en Haïti vous font état de mauvais traitements, de violences? Quelle est la teneur de leur témoignage, si je puis dire?
Vous les voyez maltraités, fatigués, sales, assoiffés, affamés. Après parfois 5 jours, environ 5 jours d'incarcération dans un centre, sans nutrition, sans alimentation, et parfois, ils sont restés dans les camions aussi, à attendre que le camion soit rempli complètement avant de les déverser sur la frontière. Donc ça veut dire, c'est une situation qui nous préoccupe. On n'a pas l'habitude de voir ça comme ça. Dans le temps, je dirais que quand il y avait ce genre de choses, il y avait quand même la possibilité que les deux diplomaties pouvaient s'asseoir, dialoguer un petit peu, mais ça fait depuis presque une année qu'il n'y a pas vraiment de relation. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un moyen pour s'asseoir et regarder le problème. Mais je vous dirais que le problème est plutôt du côté des autorités dominicaines, parce qu'en fait, c'est quelque chose, une persécution de l'État même. Cette politique qui est basée sur le racisme, la xénophobie, sur l'anti-haïtianisme, et une politique migratoire et qui commence à être militarisée d'une certaine manière, parce que du côté de Dajabón, c'est un militaire qui est placé à un poste de où devrait être un civil comme responsable de la migration.
Qu'est-ce qui se passe concrètement pour les gens quand ils arrivent? Quelle est la prise en charge? Qu'est-ce que vous faites, vous, très concrètement?
Nous sommes là et nous accueillons les gens. On de concert avec d'autres partenaires qui sont sur la frontière, comme OIM, d'autres organismes qui sont là. Nous essayons de voir comment accueillir les gens. Si les gens vont directement dans la même zone où nous nous trouvons, on les facilite d'aller retrouver leur famille, par exemple. Ils peuvent avoir besoin d'une nourriture chaude dans l'immédiat parce qu'ils ont faim, avoir de l'eau, se laver un peu, leur donner des vêtements. Et si les gens vont un peu loin, très loin, il faut penser à leur faire dormir. Nous avons un centre qui, pour l'instant, nous sommes capables d'accueillir 30 personnes par jour, mais nous avons la capacité d'accueillir 90 personnes.
Mais et si parfois, je vous écoute bien, vous parlez d'une capacité d'accueil de quelques dizaines de personnes, alors qu'auparavant, vous évoquiez des chiffres de plus de 5000 arrivées. Est-ce que ça veut dire que vous êtes aujourd'hui dans l'incapacité de répondre à ces retours?
Oui, nous sommes dans l'incapacité, mais nous ne sommes pas les seuls à faire cela.
Mais toute organisation confondue, est-ce que tous ensemble, vous êtes quand même aptes à faire face à un tel afflux?
Non. Nous ne parvenons pas à faire face à cela. C'est pour cela que nous lançons un appel à toute personne de bonne volonté, à des institutions, ce qui peut venir en aide pour que nous puissions accommoder, pour que nous puissions accueillir ces
gens. À qui pensez-vous quand vous lancez cet appel?
Il y a des organisations internationales, il y a des gens qui travaillent dans l'humanitaire, il y a aussi des églises. Tous ces gens de bonne volonté qui veulent accompagner.
Et vous leur demandez quoi très concrètement? Comment est-ce qu'ils peuvent vous aider?
Donc, il nous faut bien sûr des petits lits, des matelas, de la nourriture pour les gens.
Est-ce que le gouvernement haïtien est suffisamment là, suffisamment présent pour répondre à la situation ou pas?
Je dirais que le gouvernement est très timide. Ça veut dire qu'il n'y a pas une aide qui vienne vraiment pour aider les gens, que ce soit en termes de transport, en termes de logement. D'ailleurs, le gouvernement devrait avoir des centres pour accueillir les gens. Ce que nous n'avons pas vraiment sur la frontière, c'est les gens de la société civile qui s'organisent pour accueillir les gens. Nous aimerions voir vraiment la présence du gouvernement dans le sens pratique des choses et la présence du gouvernement aussi dans les questions diplomatiques pour voir comment aider les Haïtiens qui veulent retourner de manière volontaire, à retourner de manière sécuritaire en Haïti. Et mettre des conditions, des bus, des autobus en République dominicaine pour ramener, à partir de l'ambassade du consulat haïtien, pour ramener les Haïtiens.
Le Père Germain Clairvaux, directeur national du service jésuite aux migrants, joint par Michael Ponge pour RFI. Et on s'intéresse à présent à la campagne présidentielle américaine avec cette première pour le Los Angeles Times. Depuis 2008, le quotidien de gauche californien a décidé de ne pas se prononcer en faveur de la candidature démocrate à la Maison-Blanche. Kamala Harris, qui est issue de cet État majoritairement acquis au Parti démocrate. Le LA Times, qui s'est contenté de publier de simples recommandations électorales, mais sans appeler à voter pour un candidat à 2 semaines du scrutin. Scrutin qui se déroule donc le 5 novembre prochain et RFI décrypte le programme des deux candidats. Après l'immigration et le climat, on s'intéresse aujourd'hui à l'économie, thème essentiel de cette campagne qui préoccupe beaucoup les Américains. Et les sondages sont formels, les Américains auront d'abord leur pouvoir d'achat et le contenu de leur porte-monnaie en tête lorsqu'ils iront voter le 5 novembre. Et sur ce sujet crucial, ils sont très partagés sur le choix du meilleur candidat pour maintenir l'économie américaine à flot, Anne Verdaguer.
Oui, et sur l'importance du sujet, du thème de l'économie dans cette élection, un sondage Gallup montre que 52% des électeurs américains estiment que la thématique aura une influence extrêmement importante sur leur choix le 5 novembre prochain. C'est le chiffre le plus haut depuis la grande récession d'octobre 2008. Le candidat républicain avait jusqu'à présent un léger avantage sur son adversaire démocrate, car Donald Trump n'a pas à répondre du bilan économique du pays, contrairement à Kamala Harris, qui doit justifier des résultats du président Biden sur le plan économique. Ils sont au demeurant très bons, mais la perception qu'en ont les Américains est très mauvaise. Pour 70% d'entre eux, le pays va dans la mauvaise direction. Donald Trump en a conscience et a basé sa principale proposition économique sur la plus grande vulnérabilité de la candidate démocrate, l'inflation, qui est désormais sous contrôle, mais qui a fait exploser les prix des denrées alimentaires de 20% par rapport aux années où Donald Trump était président. Pour que les prix baissent, le candidat républicain a promis d'imposer de nouveaux tarifs douaniers sur les marchandises étrangères entrant aux États-Unis. Ces tarifs, qui sont essentiellement des taxes à l'importation, sont censés arrêter cette inflation. Problème, les économistes sont unanimes pour dire que ces taxes auront l'effet inverse sur les prix. Le reste des propositions du candidat républicain se base essentiellement sur des baisses d'impôts conséquentes. Il promet la réduction des coûts de l'essence et de l'électricité, des cadeaux fiscaux estimés à près de 11 000 milliards de dollars sur 10 ans et qui devraient encore plus creuser la dette américaine. Donald Trump qui promet aussi la dérégulation du secteur de l'énergie et le forage à tout va pour le pétrole et le gaz.
Et de son côté, Kamala Harris semble avoir pris ses distances avec l'héritage du président Biden.
Oui, la candidate démocrate a notamment banni le terme inflation pour parler du coût de la vie qu'elle entend faire baisser, elle aussi. Et pour cela, elle a choisi 4 postes de dépenses qui, outre l'essence qui obsède les Américains, sont les prix de l'épicerie et de l'alimentation. On en parlait. Pour les contenir, elle compte faire passer une loi fédérale pour lutter contre les prix abusifs. Une initiative qui semble peu faisable dans la réalité. Deuxième sujet, la santé. La candidate démocrate propose notamment une réduction de moitié, voire des 3/4, des médicaments essentiels pour les personnes âgées. Sur le coût des logements, elle propose un plan de construction et promet une aide de 25 000 dollars aux primo-accédants. Quatrième sujet, la famille. Kamala Harris veut rétablir les crédits d'impôt datant de la pandémie pour les parents qui accueillent un nouveau-né. Et enfin, dernier aspect important du programme économique de 82 pages de la vice-présidente américaine, les hausses d'impôts sur les plus riches et les entreprises qui seront limitées. Kamala Harris qui s'efforce d'apparaître pro-business afin de ne pas effrayer les électeurs modérés.
Anne Verdaguer sur le programme économique des deux candidats à la présidentielle américaine. Autre scrutin à présent qui nous emmène au Brésil, puisque ce dimanche va s'y tenir le second tour des élections municipales. Élection la plus violente de ces 5 dernières années. Voilà ce qu'affirme une étude de l'ONG Justice Global. Depuis le début de la campagne à la mi-août, 373 cas de violence contre des candidats et leurs familles ont été recensés. 10 personnes ont été assassinées. Et c'est dans la banlieue pauvre de Rio de Janeiro que se concentre une grande partie de ces violences. Reportage, notre correspondante Sarah Cozzolino.
La porte d'entrée et la devanture de la modeste maison du candidat à la mairie de Belford Roche sont éclaboussées de peinture rouge.
Ils sont venus ici pour nous humilier, mais aussi pour laisser un avertissement. Comme vous pouvez le voir, la peinture est rouge. Ça représente le sang. C'est une menace directe à nos vies. Le message est clair, et je ne parle pas que de la peinture. La première fois, ils nous ont déjà dit « on va vous tuer ».
Vinicius Cragno, candidat du parti Socialisme et Liberté, connaît son agresseur. Selon lui, le début des hostilités remonte à la fin du mois d'août, quand son père, Marcelinho, a brandi une pancarte pendant un défilé de soutien à la campagne du conseiller municipal du camp opposé. Il y attaquait la gestion de l'oncle du candidat, secrétaire municipal à l'éducation.
Il avait écrit « Où est la cantine scolaire ?» en référence au vol découvert par la police fédérale de l'argent destiné aux cantines scolaires de la municipalité. On parle d'un vol du budget de 6 millions de reais destiné aux cantines.
Ce jour-là, l'équipe du conseiller municipal fait dégager l'homme à la pancarte. On le frappe, le menace de mort, lui vole ses outils de travail. Quelques jours plus tard, Marcelinho inscrit son slogan protestataire sur la devanture de sa maison. Dans la nuit, il entend du bruit.
Ils étaient une trentaine. Quand je suis sorti pour voir ce qu'il se passait, deux d'entre eux jetaient des seaux de peinture sur mon mur. Ils avaient mis des t-shirts sur leur tête pour cacher leur visage.
S'en est suivie une nuit violente. Marcelinho et son fils Vinicius ont tenté de se défendre, de filmer leurs agresseurs. Vinicius a plusieurs preuves de la responsabilité de la famille du conseiller municipal en campagne, mais ils accusent la police de lenteur et de complicité. Son père sait que sa vie est en danger.
Il est impossible de fuir ces menaces. Le Brésil est un pays où tout militant qui défend l'environnement ou qui proteste sur n'importe quel sujet devient une cible. Et s'il m'arrive quelque chose, je ne serai ni le premier ni le dernier.
Trois jours avant le premier tour des élections, la conseillère municipale de Rio de Janeiro, Taina de Paula, a été victime d'une tentative d'attentat. Deux hommes ont tiré sur sa voiture. Personne n'a été blessé car elle était blindée. Un attentat qui rappelle l'assassinat de Marielle Franco en 2018. Conseillère municipale progressiste et noire, elle aussi. Leandro Marinho de l'Observatoire des Favelas a publié une étude sur la violence politique dans l'État de Rio.
Les auteurs...
Nous avons constaté que les auteurs des différents cas de violence politique sont des agents de sécurité publique, notamment des policiers en service ou hors service, mais aussi des personnalités politiques élues du pouvoir exécutif ou législatif. Ils sont les auteurs d'agressions, de menaces, d'intimidations et de violences haineuses.
Les milices organisées sont de plus en plus présentes dans la vie politique brésilienne. Leur apparition remonte à l'époque de la dictature militaire dans les années 1960. Paulo Mendes, chercheur en criminologie et originaire de la banlieue de Rio de Janeiro, s'est intéressé à la période de la transition politique dans les années 1980.
La tentative de contrôle de la violence s'est transformée en violence incontrôlable et bipolaire. Dans la banlieue de Rio, les groupes d'extermination agissaient de façon clandestine. Ils avaient des réactions très personnelles à ce qu'ils considéraient comme crime. C'est là qu'ont commencé à émerger certaines autorités autoproclamées pour résoudre les problèmes du crime.
Alors que les candidatures de policiers ou anciens militaires augmentent à chaque élection, les militants progressistes tentent de résister à la peur. Taina de Paula a été la conseillère municipale qui a reçu le plus de votes à Rio cette année, avec près de 50 000 voix. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on va en Martinique, puisque la situation reste toujours assez confuse entre ceux qui soutiennent l'accord signé la semaine dernière et ceux qui ne veulent pas en entendre parler, Benoît Ferrand.
Oui, situation un peu schizophrénique. D'un côté, il y a le RPRAC qui appelle encore et toujours à se mobiliser contre la vie chère, ce qui se traduit par des barrages routiers, des manifestations, des violences urbaines parfois. Et puis, de l'autre côté, il y a l'accord signé la semaine dernière entre l'État, la collectivité territoriale et la grande distribution. Accord qui poursuit tranquillement son petit bonhomme de chemin, un comité de mise en œuvre et de suivi de cet accord a ainsi été mise en place hier. Écoutez Serge Letchimi, le président de la CTM. Il est au micro d'Alain Livori.
Le gouvernement a respecté sa part d'engagement sur la TVA. Ça, c'est à noter. Donc, il y a un amendement du gouvernement qui est présenté à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi de finances, c'est ce qu'on avait dit. Donc, dès que cet amendement sera voté, l'application de la TVA zéro sur les 7000 produits sera une réalité, mais aussi sur les produits locaux. Alors, et bien entendu, le gouvernement a argumenté la présentation sous la base du travail qui a été fait en Martinique, de la mobilisation. Et attention, c'est quelque chose de très important qui pourrait être appliqué sur la Guadeloupe. Alors, et apparemment, l'amendement qui a été présenté, Martinique-Guadeloupe. Donc, clairement, la mobilisation ici a porté ses fruits pour la Guadeloupe.
Alors la Guadeloupe, justement, 15 ans après le grand mouvement de 2009 contre la profitation, la mobilisation martiniquaise n'a pas encore, pour l'instant, fait tache d'huile dans l'île sœur des Antilles. Peu d'élus se sont d'ailleurs véritablement exprimés sur le sujet. Faisons le point avec notre confrère de la première Guadeloupe, Claude Danican.
Pour le président de l'Association des maires, il faut changer de paradigme vers une autre vision économique et à Jocelyn Sapoti de s'interroger sur la nécessité de subventionner indéfiniment le coût de la vie pour maintenir une illusion d'égalité avec l'Hexagone. Quant au président de région, Ari Chalus, il rappelle les actions de la collectivité dans la lutte contre la vie chère, concrétisée par une baisse de l'octroi de mer et sur les produits de santé de première nécessité, ce qui constitue 1,5 million chaque année depuis 2020. Collectivité qui agit également à travers le bouclier qualité-prix. Le Sénat sénateur socialiste Victor Hillerel suggère au chef du gouvernement d'engager de nouveaux cycles de négociations sous l'égide des représentants de l'État pour acter des baisses immédiates de prix des produits de grande consommation. La même démarche avec les compagnies de transport maritime est souhaitable. L'ancien ministre propose également de donner de nouveaux moyens aux administrations pour faire appliquer les lois et dispositifs existants. Parmi les mesures avancées par le président de la collectivité départementale, Gilles Barre se dit favorable à une véritable souveraineté alimentaire et qu'à l'image de la Corse, nous ayons une véritable couverture financière de continuité territoriale.
Claude Danican de la Première Guadeloupe, bon après-midi, à demain.
À demain Benoît Ferrand, très bon après-midi à vous aussi. Et dans un instant sur RFI, de vive voix avec Pascal Paradou en direct de Berlin pour fêter les 30 ans de la fréquence de RFI dans la capitale allemande.
Vous êtes chanteur ou musicien d'Afrique, des Caraïbes ou de l'océan Indien? Vous rêvez de développer votre carrière à l'international? Inscrivez-vous en ligne pour le prix Découverte RFI avant le 20 novembre.
Le lauréat ou la lauréate aura la chance d'être à l'affiche d'un concert diffusé sur RFI et bénéficiera d'une tournée en Afrique et d'une aide à la création.
Retrouvez toutes les étapes et actualités du concours sur prixdécouverte.com et sur Facebook, Insta et TikTok.
En partenariat avec l'Institut français.